Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 13 décembre 89.
Je vais continuer avec vous de voir comment le problème de la personne se pose selon un ordre historique dans notre philosophie européenne. Puisqu'aujourd'hui, il faudrait regarder comment le problème de la personne s'est posé dans les traditions de l'Inde. C'est complémentaire, très souvent. Alors, je vais vous rappeler comment le problème de la personne se pose chez les pythagoriciens. Car si l'homme n'a pas de destinée propre, individuelle, y a-t-il encore un problème personnel ? Oui, de l'individu à la personne. L'individu, c'est concret. C'est Pierre, Jacques, Jean. C'est ce pythagoricien. La personne, est-ce que c'est aussi concret? Quand vous serrez la main, est-ce que vous serrez la main à un individu ou à une personne? Est-ce que vous rencontrez un individu ou une personne? C'est bien évident qu'on rencontre une personne, mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant parce qu'on reverra le problème au terme avec Moritain. Si, comme pour l'animal, sa finalité est celle de l'espèce, y a-t-il encore un problème de la personne? Vous voyez, c'est intéressant pour voir la raison sine qua non, la condition sine qua non, qui fait qu'une personne. Alors, est-ce que c'est la destinée immortelle? À ce point de vue-là, ce serait très important de voir que le problème de la personne est tout de suite lié à la finalité. Ce qui est certain, en topique, n'oubliez jamais, la topique historique, c'est fait pour nous poser des questions. Comment des philosophes se sont posés la question avant nous. Ce qui est certain, c'est que le milieu religieux, mystique, en lequel s'élabore le pythagorisme, favorise l'éclosion du problème de la destinée de l'homme. L'homme doit se purifier progressivement avant d'atteindre sa propre fin. La fin pour laquelle il est fait et qui permet son épanouissement ultime. Tout le problème de la catharsis, de la purification, est contemporain à ce problème religieux de la recherche de la destinée. Cette fin ne se réalise pas sur la terre. Elle est au-delà. Mais on est très loin du positivisme. Je crois que c'est important de comprendre ça. Alors évidemment, les positivistes, à la manière d'Auguste Comte, considèrent que c'est enfantin. On voit très bien. C'est très enfantin. Poser tout de suite le problème d'un au-delà qu'on n'a pas expérimenté. Donc vous vivez dans un mythe, quoi. Personne d'entre nous veut expérimenter l'au-delà. Et nous vivons de l'au-delà. Et toute notre vie est tendue vers ça. C'est pas comme Arnaud quand il n'y a que les traditions religieuses. C'est une fin contemplative à laquelle on peut aspirer déjà dès ici-bas, mais qui ne se réalise parfaitement qu'après. C'est une fin transphysique, transbiologique, au-delà du biologique, au-delà du physique, transcosmique, au-delà du cosmos. Ça, c'est très net chez les pythagoriciens. On n'a pas beaucoup de détails, hein, mais on a quand même suffisamment de données. Et c'est quand même là le lieu premier. Touche le problème de la destinée. genre de vie qu'il choisit. Socrate, je passe tout de suite, les pythagoriciens, Socrate. Il y aurait des intermédiaires, mais pour le problème de la personne, pas tellement. On pourrait se poser la question, évidemment, chez Parménide. Est-ce que Parménide a touché le problème de la personne en touchant le problème de l'être? Ce serait important de se poser la question. Est-ce que la découverte de l'être, par mode d'inspiration, je vous ai dit de lire le poème de Parménide, j'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de le faire. Parce qu'il faut le lire, c'est quand même quelque chose de très grand. Les pythagoriciens, il n'y a pas grand-chose. C'est une petite manne. Tandis qu'avec Parménide, on a un morceau merveilleux au plan philosophique. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que la découverte de ce que fait Parménide, en distinguant le point de vue du Do Einein, du Do Negein et du Do Noein, est-ce que là, il ne découvre pas en réalité la personne humaine? Vous voyez, il faut toujours avoir bien devant soi ce que Parménide pose d'une façon très nette, le Do Einein, le Do Negein et le Do Noein. Donc, l'être, le dire et la pensée. Et pour lui, il y a une sorte d'unité dans ces trois. L'unité dans l'être premier. Est-ce que ce n'est pas déjà, d'une certaine manière, une vision métaphysique de la personne? La personne implique penser l'être et le dire. Tout le problème du tolégaï, c'est la communication. La philosophie de la communication, c'est le tolégaïne, le dire. Et comment on peut dire ce qu'il y a de plus intime en nous? Alors doit-on commencer par le tolégaïne ou commencer par le toinaïne? Il y a un ordre chez Parménide. Le toinaïne et le tonoïne sont directement unis. Et le Do Negein est l'intermédiaire, le fruit. Je crois que si on pose le problème de la réalité fondamentale et ultime dans Parménide, c'est posé de cette manière-là. Donc, ce n'est plus du tout éthique. C'est par rapport à l'être. C'est là le grand tournant de Parménide par rapport à tout ce qui précède. Alors, c'est quand même très intéressant de voir que tout de suite, on a deux pôles de l'absolu vécu. Le pôle pythagoricien, le pôle de Parménide. Parallèlement à Parménide, Héraclite. Héraclite, le philosophe de l'expérience. Alors, le philosophe de l'expérience, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à l'absolu par l'expérience. Quand il s'agit de le recevoir dans une inspiration, on découvre tout de suite l'absolu. Parménide reçoit tout de suite l'absolu de la déesse. Évidemment, si vous avez un contact avec la déesse, tout de suite, vous comprenez que c'est l'être. Et que le legein de la déesse est égal à l'être. Ça, c'est extraordinaire. Oui, la parole divine est au niveau de l'être. C'est quand même Parménide qui dit ça. Hein. La parole de la déesse, et c'est l'être. Dans la parole, professeur, vous ne découvrez pas l'être. Pourquoi ? Posez-vous la question. C'est quand même très important, vous voyez. Ce triangle est très très fort. Il va commander toute la philosophie occidentale. Alors, vous avez au contraire l'autre triangle. Donc celui-ci, il est second, puisque c'est Parménide. Le premier, c'est ce que je vous disais, la destinée. La destinée de l'homme. Sous le point de vue des traditions religieuses. Ici, c'est l'inspiration. L'inspiration est un autre au-delà des traditions. C'est la source. Tradition religieuse destinée à âme immortelle. Vous avez encore un triangle. Il ferait mieux mettre comme ça. Un, deux, trois. Puisque c'est le fondement, l'âme immortelle. Réfléchissez bien à ça, parce que c'est les deux sources de fait où on s'est mis à parler de la personne. L'aspect religieux, l'aspect métaphysique de l'être. La finalité. Et l'aspect de l'être. Parce que, évidemment, tout le point de vue du corps est dans la contingence, dans la corruptibilité. Donc on ne trouve pas l'absolu. Ce qu'il y a de très beau chez Parménide, c'est de voir que l'absolu ne peut être que du côté du ton, Noéen, que du côté de la pensée. En dehors de la pensée, il n'y a pas d'absolu. Vous êtes dans le contingent, vous êtes dans le cosmos. Vous voyez ? Là, tout de suite, j'essaie de découvrir l'absolu de ces philosophes qui regardent l'homme. Où est l'absolu chez un pythagoricien? La découverte de l'âme immortelle qui découvre ce pourquoi elle est faite, sa destinée. Rejoindre les dieux. Quel est l'absolu chez un Parménide? C'est la découverte de l'être. L'être est divin. L'être est divin pour Parménide. Au-delà de la corruptibilité. Tout ce qui est au-delà de la corruptibilité, chez un grec, c'est le divin. Faut jamais oublier ça. La première division fondamentale, c'est le divin et le corruptible. Et cette division, vous voyez, c'est la division qui relève des traditions religieuses. La corruptibilité, c'est le monde de la relativité. Donc c'est le monde des corps, du cosmos. C'est le monde du corps. Tandis que le divin, ce sera quelque chose qui est au-delà de la corruptibilité. Chez Empédocle, donc, je veux dire, chez Héraclite, à cause de l'expérience, l'absolu sera la découverte du logos, la loi, l'universel. C'est très différent, vous voyez. C'est beaucoup plus proche du conditionnement humain. Mais au fond, Héraclite, tout ce qu'on peut avoir comme fragment, ne nous permet pas, je crois, de parler du problème de la personne chez Héraclite. Je ne crois pas. Sauf de voir que le logos, la loi, et la loi chez Héraclite, est-ce qu'elle n'est pas divine? C'est très difficile de savoir ça. Ce qui est sûr, c'est le dépassement du contingent qui se fait par le logos, qui se fait par la loi, par l'universel. Le particulier reste corruptible. Il faut dépasser ça. Donc, vous voyez, recherche de l'absolu dans l'homme. Où trouver l'absolu dans l'homme? Je crois. comme ça chez Héraclite. Alors ce sera le feu. Le logos et le feu. Il y aura deux pôles. Le logos et le feu. Le feu divin. Il y a le feu visible et le feu divin. Le feu visible, c'est ce qui entoure le cosmos et ce qui est au-delà du cosmos périssable, puisque le feu commandera tout le devenir et ira le feu divin. Alors je crois que chez Héraclite, parce qu'il reste dans l'expérience, il restera dans la dualité. Le logos et le feu. On ne dira jamais que le logos est feu. Mais c'est intéressant, vous voyez, de voir logos et feu. Symboliquement, vous voyez bien, le logos et le feu. Tout l'évangile de Saint Jean. Le Verbe et l'Esprit Saint et l'amour. Alors là, c'est à titre, ne faites pas de confusion, mais c'est à titre de recherche philosophique. Alors on pourrait mettre comme troisième position le logos et le feu. C'est le Héraclite. C'est assez net. Empédocle, ce sera encore la dualité, la philia, l'amour d'amitié et la haine. C'est ça qui commandera tout. Donc vous voyez, on reste dans la dualité, mais pas une dualité positive, une dualité de contradiction, de contrariété. L'amitié, la philia qui fait l'unité. C'est l'amour d'amitié qui explique l'ordre dans le monde, qui explique l'unité dans le monde. Mais il y a toujours une force opposée, ce sera la haine. La haine, source de division. Toujours la source de la division. Alors à certains moments, c'est la haine qui l'emporte, à d'autres moments, c'est l'amour. C'est encore, vous voyez, le problème de l'absolu. Quel est l'absolu qui existe dans l'homme? Une projection sur l'univers. L'absolu qui existe dans l'homme, c'est l'amour d'amitié, le faiseur d'unité, le faiseur de paix. C'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié fait l'unité. Et cet amour d'amitié n'est jamais total et absolu. Il y a toujours la possibilité de la contamination de la haine. C'est une métapsychologie. C'est très psychologique. Empédocle, c'est les contraires. C'est l'harmonie, c'est les contraires. Et vous arrivez ensuite à Socrate. Vous voyez, vous pouvez regarder toute la recherche des présocratiques de cette manière. Où trouver l'absolu? C'est peut-être une manière de regarder l'origine de la philosophie. L'homme a besoin d'absolu. Il a besoin de vérité. Où trouver l'absolu? Alors, il le cherche parce qu'il est porteur d'absolu. C'est une manière de regarder ce que c'est que la personne humaine. Parce que vous ne chercheriez pas l'absolu si vous n'aviez pas en vous un certain absolu. Il y a un certain désir d'absolu. Alors, on le recherche à tâtons. Mais c'est cette recherche de l'absolu. Et on est philosophe que dans la mesure où on cherche l'absolu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que le positivisme, qui nous installe dans la relativité absolue, est anti-philosophique. Et comme nous respirons l'air positiviste, on a beaucoup de peine de découvrir ce que c'est que la philosophie. La recherche de l'absolu. Et alors, nous dirons facilement, nous, des chrétiens fatigués, diront facilement, l'absolu, on l'a dans la foi, c'est suffisant. Oui, mais n'oubliez pas que le chrétien est responsable des autres. Et donc il doit rechercher quel est le porteur de l'absolu de la foi. Où trouver la capacité de recevoir la foi. Si la foi est un absolu, c'est vrai, analogue aux pythagoriciens, on doit rechercher la possibilité de trouver cet absolu dans l'homme. se lui se donne de cette triple manière. La foi est liée à l'espérance, et l'espérance est liée à l'amour. Et nous sommes porteurs d'absolu au niveau surnaturel. Donc, notre absolu. S'il y a en nous un absolu, il y a donc une capacité à l'absolu. Et c'est cette capacité qu'on doit rechercher au plan philosophique. On la retrouvera par le point de vue de l'être. Mais c'est très curieux. C'est qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes. Mais dans des contextes totalement différents. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. C'est pour ça que c'est important de revenir à l'origine de notre philosophie. Pour comprendre ce que c'est que la philosophie. Parce qu'on est, je crois, dans une période tout à fait décadente. Plan philosophique, décadence remarquable. C'est vrai, les gens ne contemplent plus, les gens ne pensent plus, les gens ils se laissent porter. Et on a l'impression qu'il y a un homme qui pense, c'est suffisant dans un état, et c'est tout. Et puis les autres suivent. On en arrive à ça. Tu vois. Et on doit par le fait même revenir à la source. Et c'est pour ça qu'il est bon de revenir à la source. Pythagoricien. Il y a un lien entre les pythagoriciens et nous, ça c'est sûr. Tradition religieuse, foi. Il y a quelque chose qui est commun, si vous voulez, entre les deux. La tradition religieuse jouant pour le grec ce que la foi joue pour le chrétien, ce que la révélation joue pour le chrétien. Et en même temps, si notre salut était purement individuel, on n'aurait pas besoin de la philosophie. Vous êtes sauvés par la foi. Reste des imbéciles. On s'en occupe pas. Mais la foi fait comprendre que notre salut n'est pas uniquement personnel. C'est l'humanité. Comment rejoindre les hommes qui n'ont pas la foi? Ils ont la capacité d'avoir la foi. Quelle est la capacité d'avoir la foi? L'intelligence et l'amour. Et toute la philosophie portera sur l'intelligence et l'amour. L'intelligence, philosophie première, l'être. L'amour, l'éthique. Vous voyez, c'est pour vous faire comprendre pourquoi il y a cette recherche philosophique. Et que c'est nécessaire si on est chrétien. Chacun a sa manière, tu vois. La capacité à l'absolu, c'est d'une part l'intelligence, d'autre part la capacité d'aimer. Puisque la foi implique amour et lumière. Donc, ces deux impliquent dans la capacité, les deux. Et on aura toujours philosophie première, éthique. Vous voyez comment le problème de la personne est au cœur de toute la philosophie. L'absolu, vous le portez en vous. Si vous cherchez un sens à votre vie, et si vous voyez des jeunes qui perdent le sens de leur vie, il faut pouvoir le réveiller. Il faut savoir où on doit le réveiller. Parce que si vous parlez uniquement de la foi, ah, c'est un don de Dieu, et Dieu ne me donne pas. Il faut montrer qu'il y a en nous une capacité radicale à cela, et donc réveiller l'intelligence et l'amour. Dans certains cas, c'est d'abord l'amour, dans d'autres cas c'est l'intelligence. Il faut avoir ce double clavier, constamment, parce que si vous n'avez qu'un seul clavier, vous serez spécialisé pour uniquement l'affectivité. Alors vous réveillez l'affectivité, mais quand on ne réveille que l'affectivité, ça risque d'être la crème fouettée, n'est-ce pas? Alors c'est très bien, c'est tant qu'on parle, ça monte, mais après, huit, ça dégringole. Et si vous n'avez que le point de vue de l'intelligence, vous n'atteignez qu'un tout petit nombre. Parce que le plus grand nombre est dans l'affectivité, c'est sûr. Le plus grand nombre, surtout la jeunesse. Et un petit nombre est dans l'intelligence, un très petit nombre. Mais l'affectivité est laissée à elle-même, sans un effort de structurer cette affectivité par l'intelligence. essayer de comprendre. Quand on recherche le problème de la personne, chercher quel est l'absolu qui est en nous. Et alors si on est chrétien, le fondement même de notre vie divine qui nous met face à l'absolu. Si vous pouvez être face à l'absolu dans votre vie divine, ça prouve qu'il y a en vous une capacité à cela. Et cette capacité, c'est votre personne. C'est ça qu'on appelle la personne. Alors Socrate, vous regardez Socrate. Socrate, par le genre de vie qu'il choisit, montre qu'il est certain que l'homme est capable d'une destinée personnelle. Le témoignage de Socrate, quand il boit la ciguë, donne la signification à toute sa vie. Il en est parfaitement conscient. Et son disciple bien-aimé, Platon, le montre. Je crois que ça, c'est l'étincelle que Platon a reçue de Socrate. Il a reçu son testament. Socrate, c'est un testament philosophique. C'est pas autre chose, c'est un testament philosophique. C'est quelqu'un, j'allais dire, qui a mis tout le poids de sa réflexion, de fait, dans l'acceptation de boire la ciguë. C'est une sorte de martyr, c'est très curieux. On verra ça dans le ciel. Si Socrate a une palme de martyr, c'est possible, on peut pas le canoniser, c'est évident. C'est incanonisable. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça chez Socrate. Il y a montrer que l'absolu, c'est la vérité. On n'a pas le droit de compromis. Le compromis détruit la personne humaine. Et que c'est dans la recherche de l'absolu, de la vérité, que la personne humaine peut seule se construire. Quelqu'un qui ne cherche pas la vérité ne se construit jamais. Donc il n'y a pas de personnalité en lui. Et la personne se détruit. C'est l'astuce du démon, ça. Il ne faut pas l'oublier. Parce que le démon attaque plus facilement l'intelligence que l'amour. Mais s'il attaque l'amour par l'intelligence, toujours. Oui. C'est la première tentation du démon. C'est l'herméneutique par rapport à la parole de Dieu. Relativiser la parole de Dieu. Par rapport à elle. Donc c'est par rapport à l'intelligence. Le démon s'infiltre tout le temps par l'intelligence. Parce que son intelligence est plus intelligente que la nôtre. Donc quand il attaque sur l'intelligence et que nous répondons sur l'intelligence, il est sûr de gagner. Tandis qu'il est faiblard du côté de l'amour. Très très faiblard. Il n'a aucune espèce de force, il n'y a pas de flamme chez le démon, aucune flamme. Nous savons que toutes les flammes sont dans le cœur du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a aucun amour. Mais l'intelligence, ou alors là, la dialectique, extraordinaire. Alors, c'est intéressant de voir Socrate. Vous voyez, ce terme, c'est comme ça qu'on l'a donné pendant de longues années, les pré-socratiques. On a considéré que Socrate était celui qui, dans la philosophie grecque, mettait dans la philosophie grecque sa maturité. La philosophie grecque est devenue mûre avec Socrate. Il fallait l'holocauste de Socrate, l'offrande de sa vie. C'est l'offrande de sa vie par rapport à la vérité. Il aime mieux mourir que d'abîmer la vérité. C'est ça, Socrate. Il aime mieux mourir que d'abîmer la vérité. Et d'offrir sa vie. Et de boire la ciguë. Vous voyez, il est lié à la loi. Il ne veut pas donner un exemple de quelqu'un qui enfreint la loi. Alors il accepte de mourir pour respecter la loi. Et en même temps, il ne veut pas aller contre sa conscience. Contre les voies intérieures. Parce que c'est ça le dilemme de Socrate. Il est mené par une voix intérieure. Cette voix intérieure, qu'est-ce que accepte de disparaître pour que la loi reste intacte pour tout le monde et que sa conscience demeure nette. Vous voyez, il y aurait un parallélisme très étonnant à faire en respectant l'analogie. Jésus face à la femme adultère. Socrate face à la condamnation de la loi. Parce que des deux côtés, vous voyez la loi. Et des deux côtés, vous voyez l'intériorité. Le dilemme entre la loi, qui est quelque chose d'extérieur. La loi est pour tout le monde. La loi, c'est pas vous. Vous ne vous identifiez pas à la loi. Le jour où vous vous identifiez à la loi, vous êtes complètement fichu. Vous êtes dans la perfection. Et vous restez figé dans la perfection. Celui qui s'identifie à la loi. On s'identifie à sa voix intérieure. À l'amour qu'on a. C'est ce qu'il y a de plus nous-mêmes. Et à certains moments, il peut y avoir un dilemme entre la loi et la voix intérieure. Alors nous voyons comment Jésus, face à la femme adultère, résout ce dilemme. Et Socrate, ce serait très beau à voir ça, en parallèle. Je ne crois pas que ça ait été fait. Parce que c'est le dilemme de l'intériorité par rapport à l'intériorité et l'extériorité. Vous voyez ? Rester fidèle à l'intériorité, au-delà de la loi, sans massacrer la loi. Pas un iota de la loi ne disparaît. Pas un iota de la loi, pour Socrate, doit disparaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, c'est le drame humain dans toute sa force. Vous retrouveriez chez Nietzsche quelque chose d'analogue. Il y aurait les trois. Socrate, Jésus, Nietzsche. Et vous verriez les trois dialogues. Vous voyez, les trois en face de l'exigence de l'intériorité. Et le point de vue de l'extériorité. C'est quand même très important de saisir ça. Parce que c'est une manière pour nous d'entrer dans le problème philosophique. C'est sûr. Alors si on est chrétien, par le Christ, on voit tout de suite. Si on veut voir l'origine de la philosophie, Socrate. Socrate est au point de départ. C'est une source, Socrate. C'est pour ça que Socrate n'a pas écrit. C'est une source. Jésus n'a pas écrit. Nietzsche a écrit. C'est très curieux. Mais voyez, des trois, on pourrait multiplier les parallélismes. Hein, parce que je crois que c'est le problème de toute âme magnanime, de tous ceux qui sont sources, ou des fausses sources empoisonnées, ou des vraies sources. Et Socrate est une vraie source. Elle n'est pas absolue, mais c'est une source. C'est difficile, vous avez dépassé Socrate. Au point purement humain. Socrate est une limpidité de très extraordinaire. Et Socrate est quand même celui qui va sauver la vérité face aux sophistes. Et sauve la vérité par l'holocauste de sa vie. Et il accepte l'holocauste de sa vie. C'est pas un suicide. C'est l'holocauste de sa vie. Alors, on peut se demander s'il avait raison ou pas raison. Ça, c'est autre chose. Hein. Dans sa conscience, il avait raison. Donc, Socrate montre la destinée personnelle. Quand je parle de destinée personnelle, vous pouvez mettre intériorité. Vocation. Le problème de la destinée, le problème de la vocation. Socrate accepte de mourir en restant fidèle à sa voix intérieure qui lui demande de respecter les lois de la cité et puis qui lui demande de dépasser les lois. Et comme on ne comprend pas, il n'a plus qu'à disparaître pour ne pas scandaliser, éviter le scandale. Donc il demande, en restant fidèle à sa loi intérieure, qu'il lui demande de respecter les lois de la cité, montre nettement qu'il est sûr que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage vers une autre vie. Qu'il est sûr que l'homme, en ce qu'il a de plus profond, son âme immortelle, doit s'orienter autant qu'il le peut, dès ici-bas, vers cette vie future, seule digne d'être vécue. L'absolu n'est pas sur la terre, il est au-delà. Pour trouver la destinée, pour trouver le dépassement par le point de vue de la finalité. Il y a donc dans la vie de Socrate et dans sa mort un témoignage personnel qui éclaire d'une manière très spéciale le problème philosophique de la personne. Celle-ci n'exige-t-elle pas nécessairement un dépassement à l'égard de la mort? Vous voyez, c'est le problème de la personne et de la mort. C'est très actuel. C'est très très actuel, ça. Et je crois qu'il faut le comprendre de cette manière-là. Alors, on peut le comprendre au niveau de Socrate, au niveau du Christ. Parce que Jésus montre que tout le christianisme ne se comprend qu'en face de la mort, en dernier lieu. Le testament du Christ, c'est sa mort. Le testament de Socrate, c'est sa mort. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose de Nietzsche? C'est différent. Mais c'est important de voir ça. Vous voyez? Parce que c'est important de voir comment le problème de la personne est lié à la mort. En définitive, ce sera par rapport à la mort qu'on découvrira le secret de la personne humaine. Est-ce que la personne humaine est capable de dépasser? On comprend alors, dans cette perspective, le problème de Platon. Disciple de Socrate, il n'y a pas que Platon qui est disciple de Socrate. Xénophon aussi. Mais ici, je m'intéresse qu'au Socrate de Platon. Au plan philosophique, c'est le seul qui est intéressant. Parce que de l'autre côté, c'est Socrate capitaine. Vous comprenez? Ça vient de moi, sérieux. Socrate capitaine, c'est Xénophon. C'est pas très intéressant. Parce que c'est sûrement que Socrate était un capitaine hors pair. Il n'a pas mis sa vie à être capitaine. Il a mis sa vie au-delà. Il a dépassé ça. Et puis Socrate, qui était plus ou moins pris par les sophistes. Le premier Socrate, pris par les sophistes. Il y a trois Socrates. Dans l'unité. C'est pas une trinité. Pas dans la simplicité. Il y en a trois successifs. Puisqu'il n'a pas écrit, donc il faut regarder les témoignages. Qu'est-ce qu'on a dit sur Socrate? Alors il y a trois miroirs sur Socrate, trois miroirs. Un déformant, l'autre grossissant et l'autre exact. Alors vous avez donc les trois comme ça. Platon comprend que le problème philosophique fondamental est celui de l'immortalité de l'âme. Et celui-là, chez Platon, se précisera aussi face à la mort. Et c'est pour ça que la mort prendra une importance si grande dans la philosophie de Platon. Mais le propre du philosophe, c'est d'absorber la mort. D'être libre par rapport à la mort. Vous êtes philosophe dans la mesure où vous êtes libre par rapport à la mort. Hein, pas beaucoup de philosophes, alors. Hein. Est-ce que vous êtes libre par rapport à la mort? De votre intelligence, de votre contemplation philosophique. Il faut que la contemplation philosophique soit suffisamment forte, qu'elle soit substantielle, pour que la mort soit relativisée. Sur la mort, pas grand-chose. Un petit passage du monde corruptible au monde divin. Alors, la lame